Les colloques du Collège de France.
Bonjour, je suis content de revenir parler au Collège de France. Quand Dario m'a demandé, il y a un an, de parler à ce colloque, d'ouvrir ce colloque sur la philologie des paratextes, il est là, oui, je lui ai tout de suite répondu que mes relations avec Gérard Genette, l'inventeur de ce néologisme, dans son livre intitulé « Seuil », paru en 1987, mes relations avec lui ont toujours été assez malaisées, tendues, équivoques. J'ai assisté deux ou trois fois à son séminaire de l'École des hautes études, qui s'appelait encore, je crois, l'École pratique, celle des sciences sociales, à l'automne de 1974. Ça nous remonte à beaucoup de temps, il y a plus de 50 ans. Et la même année, je suivais le séminaire de Roland Barthes à la même école. J'étais alors élève à l'École nationale des ponts et chaussées, qui était rue des Saints-Pères. Bon, je sortais de l'École polytechnique et je ne m'apprêtais pas du tout à la carrière que j'ai suivie par la suite. Mais je me suis lié avec Roland Barthes, nous sommes devenus proches et cette amitié a certainement joué un rôle dans ma bifurcation du métier d'ingénieur à celui que j'ai suivi. Mais j'ai cessé de fréquenter le séminaire de Gérard Genette après deux ou trois fois parce que je m'y ennuyais. Et le côté classificatoire, systématique, obsessionnel de sa démarche, de ces années-là, parce que ça n'a pas toujours été sa démarche, c'était pas de mon goût. Alors je parle de ce Genette-là, je parle pas de celui des figures, 1, 2, 3, qui était beaucoup plus littéraire, ni du troisième Genette, le Genette esthéticien, un philosophe des règles de l'art, ni du le quatrième Genette, celui des fragments autobiographiques ou mémoires, toute la série de ses volumes. Je parle donc du deuxième Genette qui était dans une période entre deux âges celui des années 70-80, donc ce Genette de mimologique, palimpseste et seuil, qui s'intéressait moins à la littérature qui existait, ou autant à la littérature qui n'existait pas qu'à la littérature qui existait. C'était un petit peu mon grief. Il s'intéressait autant aux textes possibles qu'aux textes réels, ce qu'il appelait l'architexte, par exemple, dans une sorte de nominalisme poétique qui ne me convenait pas. Il créait des cases vides pour essayer de les remplir avec des curiosités un peu monstrueuses. Quelques années plus tard, j'étais un peu en train de me convertir, j'ai soutenu en décembre 1977 une thèse de troisième cycle de littérature française qui était dirigée par Julia Kristeva, puis c'était une thèse sur la citation, c'était une thèse sur l'intertextualité, la citation comme premier élément de l'intertextualité. Et Barthes, c'est le premier lecteur de cette thèse qui a eu, c'était Barthes. Il n'a pas fait partie du jury parce que nous étions liés d'amitié. Bon, je venais de diriger un colloque sur son œuvre à Cerisy qui s'appelait Prétexte Roland Barthes. Bon, en discutant avec Barthes, il m'a dit il faudrait tout de même inviter Gérard Genette au jury. Et Gérard Genette est donc venu au jury de cette thèse qui est devenue le livre La seconde main ou le travail de la citation, publié en 1979. Et Genette, le jour de la soutenance, s'est montré très indisposé, très très désagréable. Il a commencé par se plaindre du fait qu'il n'avait pas pu dormir de la nuit, il n'avait pas pu fermer l'œil parce qu'il avait dû lire ma thèse. Bon, je m'étais dit, il aurait pu commencer un peu plus tôt, mais bon. Donc il est arrivé épuisé. Vous savez, Genette avait de grosses cernes. Enfin, il était assez mélancolique, Genette. Il avait de profondes cernes sous les yeux, triste, gris. Furieux parce que c'était trop long. Son grief principal, c'était que cette thèse était trop longue. Bon, elle était d'une longueur. Le livre n'est pas si copieux que ça. Bon. Après, j'avais une conversation avec Barthes. Barthes pensait qu'il avait été mécontent de le voir assis au premier rang comme auditeur, comme une sorte de mentor silencieux. et non pas comme un acteur. Donc ça, Marx pensait que c'était ça qui avait irrité Genette. Moi, je pensais qu'il se souvenait peut-être que j'avais déserté son séminaire 3 ans avant, après 2 séances, après lui avoir demandé, parce qu'à l'époque, on faisait des visites pour s'inscrire, mais bon. Donc, les rapports n'étaient pas excellents. Je ne me souviens pas de ses reproches exacts, à part la longueur, mais je vous dirai tout à l'heure que je les ai compris grâce à vous en relisant ça aujourd'hui. Alts, sur le conseil de Barthes, j'ai proposé mon manuscrit au Seuil, mais non pas à la collection poétique. Les gens me disent parfois la seconde main est publiée dans la collection poétique, parce que ça pourrait y être, mais non, parce que mes rapports avec Genette n'étaient pas très bons, et je n'ai jamais publié un article dans la revue poétique à cause de cette sorte de différend avec Genette. Hein. Plus tard, lorsqu'il a publié Palimpseste, je me suis demandé si, mais surtout Seuil, je me suis demandé, mais déjà Palimpseste, je me suis demandé s'il n'avait pas eu le sentiment que mon analyse de la citation envahissait un terrain qui lui appartenait, enfin qui lui appartenait pas encore, puisqu'il n'avait pas encore du tout travaillé sur ces questions de ni de Palimpseste, de littérature seconde, ni de Seuil. À l'époque, en 77, c'était pas du tout ce qu'il faisait. Mais je me suis demandé si c'était bon, peut-être qu'il considérait que c'était un terrain qu'il allait un jour examiner et explorer. Dans Palimpseste, donc 82, il nomme transtextualité. Bon, vous voyez, Genette aimait beaucoup les néologismes, multiplier ces noms. Il nommait transtextualité l'ensemble des relations d'un texte avec d'autres textes. Il y avait d'abord l'intertextualité qui était réduite à la présence effective d'un texte dans un autre texte, dont ma citation comme élément premier, puis il énumérait ensuite paratextualité, métatextualité, architextualité et hypertextualité, et il dressait une typologie exhaustive, complexe, de ce qu'il appelait littérature au second degré. Bon, c'est là où moi je voyais qu'il y avait une sorte de casuistique, où justement il perdait un peu de vue les textes, comme Proust parlait de la cime du particulier, hein, dans chaque texte. Et je dirais que Seuil, en 87, nous éloigne encore plus des textes dans leur particularité existentielle. Dans la seconde main, j'avais moi-même formé un néologisme, celui de périgraphie, que vous avez trouvé dans le titre, de la périgraphie au paratexte, question de cadrage, c'est un titre de Dario. Hein. J'avais forgé ce néologisme de périgraphie qui recouvrait à peu près exactement le même objet littéraire ou les mêmes objets littéraires que Genette, soit tout ce qui est autour du texte. Hein. Et j'y étais venu à propos de réflexion, puisque c'était un travail sur la citation, de réflexion sur l'épigraphe. C'était l'épigraphe qui m'avait mené à la réflexion sur les entours. Et il y a tout un, dans ce livre, il y a une bonne centaine de pages sur la périgraphie à partir de l'épigraphe. Parce que l'épigraphe, bon, c'est la citation que l'on place en exergue, hors d'œuvre, juste à la marge, au bord, à l'entour du texte. Et j'avais donc forgé ce mot d'épigraphe, de périgraphie. Le mot était formé évidemment sur l'épigraphie à partir de l'épigraphe, science des inscriptions, dont les épigraphes. J'avais préféré ce terme pour une série de raisons. La première, c'était qu'il rapprochait deux radicaux venus du grec, hein, para et graphéine, alors que paratexte attèle le latin textus et le grec para dans une sorte de zeugme. La deuxième raison, la première c'était sur le modèle de l'épigraphie, la deuxième c'était pour ne pas faire un monstre étymologique, et la troisième c'était pour éviter justement tous ces termes de textualité, parce qu'il y avait une sorte d'inflation de la textualité dans ces années-là, et il me semblait que je voulais un mot peut-être plus élégant que paratexte. Bref, pour dire exactement la même chose, j'avais trouvé que le mot de périgraphie était plus joli que celui de paratexte, qui fait penser à parachute, parasite ou sparadrap. Mais grâce à vous, j'ai réouvert dimanche la seconde main, après 50 ans, ce que j'avais, je crois, plus jamais fait de 50 ans, et j'ai un peu mieux compris les griefs de Genette, ce que je n'avais pas compris à l'époque. Enfin, maintenant, je l'ai reconstruit. J'associais dans ce livre la formalisation de ce que j'appelais périgraphie, justement, au livre imprimé et à l'âge classique. Et je montrais comment cette périgraphie s'était développée à la Renaissance, puisqu'il y avait beaucoup dans ce livre de considérations sur Montaigne, notamment. Et je montrais comment cette périgraphie s'était instituée avec la naissance et puis le développement du modèle spatial du livre, opposé justement au flumène du manuscrit, et de la parole, de l'écriture ou de la rhétorique. Et notamment avec l'apparition dans le livre du titre de la table des matières, tôt dans les débuts de l'imprimerie, se substituant à une entrée en matière in medias res et à un colophon à la façon des copies manuscrites. La périgraphie commence donc avec ces données qui entourent le texte, à commencer par la date et le lieu. Et j'accordais une grande importance dans ce développement de la périgraphie à la marque d'imprimeur, qui était une institution capitale des débuts de l'imprimerie, symptomatique de, en plus de la culture de l'emblème à la Renaissance, la marque d'imprimeur associant toujours une image et une devise comme un emblème, bon, les plus fameux étant celui d'Aldus Manutius à Venise, hein, l'image du dauphin s'enroulant autour de l'ancre et la devise Festina Lente, ou encore plus compliqué, peut-être plus intéressant, plus syncrétique, la marque d'imprimeur de Froben à Bâle, l'emblème est composé d'une image. L'image, c'est un caducé, donc il y a deux serpents qui s'enroulent autour d'une tige, et au-dessus du caducé, il y a une colombe. Et la devise est « Prudens simplicitas amorque recti », citation très intéressante parce qu'elle combine des vers de Martial et de l'évangile de Matthieu, dont on a un parfait exemple de syncrétisme, d'humanisme chrétien. La colombe et le serpent, les vers de... L'évangile de Matthieu, c'est « Montrez-vous donc malin comme les serpents et candide comme les colombes, hein, prudens simplicitas ». Donc le soin apporté à la couverture, le titre au nominatif qui devient le nom propre du livre, cela a rapidement fixé ce que j'appelais périgraphie du livre imprimé, le texte s'insérant entre titre et table des matières, index, tout ce qui se distingue du modèle linéaire de la voie. Le volume est cerné, circonscrit, encadré, on va prendre ce mot. Et voici ce que, me relisant, je disais de la périgraphie. Sa périphérie, la périphérie du livre, ce qui n'est ni dedans ni dehors, comprend toute une série d'éléments qui l'enveloppent, comme le cadre enserre le tableau d'un titre, d'une signature, d'une dédicace. Ce sont autant d'entrées dans le corps du livre, elles dessinent une périgraphie que l'auteur doit surveiller et où il doit se surveiller, car c'est d'abord alentour que se joue la recevabilité du texte. Notes, tables, bibliographie, mais aussi préface, avant-propos, introduction, conclusion, appendice, annexe, ce sont les rubriques d'une disposition nouvelle. La périgraphie est une zone intermédiaire entre le hors-texte et le texte. Le texte enceint de sa périgraphie s'oppose au texte mobile de la première typographie, dont il prend le relais en tempérant l'allure. Il parangonne les écarts. J'étais très amusé de trouver que j'avais employé ce mot parangonner en 1977. Parce que maintenant, on nous dit que, à l'Académie française, on nous dit qu'il faut dire parangonner pour ne pas dire benchmarking, en anglais. Alors, je l'employais encore au sens de l'imprimerie, le parangonner, pas du tout dans le sens où on l'emploie 50 ans plus tard. Maintenant, tout le monde parle de parangonner. Là, bon, c'était une préciosité. Il parangonne les écarts, il exhibe sur sa frange ses titres de reconnaissance. Appareil institué, la périgraphie va de pair avec les citations. Vous voyez pourquoi j'ai analysé tout ça dans le cadre de la citation. Eh bien, relisant aujourd'hui ces passages, donc dimanche dernier, je soupçonnais pour la première fois ce qui a pu irriter Gérard Genette, car je m'aperçois que ma démarche était au fond beaucoup plus foucaldienne que formaliste dans cette affaire, puisque je m'intéressais beaucoup plus que je n'en avais conscience à l'époque. Et il y avait des mots surveillés qui étaient là, qui maintenant m'évoquent le cours de Foucault, seriez punir, auquel j'ai assisté au Collège de France dans ces années-là. Ma démarche était beaucoup plus historique et institutionnelle que formaliste et taxinomique, mais je ne m'en rendais pas compte. Je voyais dans ce que j'appelais la périgraphie, une discipline, une autorisation, un contrôle, un mécanisme de contrôle et donc de pouvoir de plus en plus institué avec le développement de l'imprimerie. Et c'est pourquoi je m'intéressais aux marques d'imprimeur, aux privilèges d'imprimeur et puis au développement comme, disons, précurseur du droit d'auteur. Donc c'était tout ça. C'est maintenant que je vois ça. Je me dis donc aujourd'hui que cet angle de vue sur l'intertextualité qui me menait à cette notion de périgraphie, cet angle de vue a pu le déranger, parce que pour moi, justement, la citation, comme la périgraphie, appartenait à ce nouveau système d'autorisation du livre. Et, comme on dirait avec un autre néologisme, doctorialité, tout ce qui permet le livre. Alors, Dario a donné comme titre à mon intervention de la périgraphie au paratexte, question de cadrage. Bon, je lui en laisse la responsabilité, mais vous voyez que la périgraphie, elle est mieux dans le sens de ce caractère institutionnel des marginalia, plutôt que simplement classificatoire. Cet encadrement du texte qui l'autorise. Et on a dans le péri plus que dans le para, cette notion d'encadrement. Et d'ailleurs, dès que Genette introduit finalement paratexte dans Seuil en 1987, il dit aussitôt, il faut distinguer dans le paratexte que vous avez dit, le péritexte et l'épitexte, puisqu'il adorait tous ces petits couper les cheveux en quatre. Donc il introduit aussitôt le paratexte et le péritexte, et il dit péritexte, titre, préface, note, etc. C'était très exactement ce que j'avais appelé périgraphie. Et l'épitexte, dont vous avez d'ailleurs dans l'introduction, a dit combien cette notion était finalement floue, celle d'épitexte, puisqu'elle peut aller, elle peut finalement tout comprendre, puisqu'il dit entretien, correspondance, publicité, discours de l'auteur, etc. Soit une sorte de fourre-tout illimité. Alors, vous voyez que ce qui m'intéressait dans la périgraphie, c'était au fond l'institution, la hiérarchie, le pouvoir, et non la classification pour la classification. Il se trouve donc que j'avais parlé de périgraphie pour désigner paratexte, ou encore plus précisément ce qu'il allait appeler péritexte dans Seuil. Évidemment, c'est son terme qui l'a emporté. Moi, j'étais tout jeune, lui, il était déjà un maître. Périgraphie, on l'a oublié, paratexte est resté. Mais pour vous parler, j'ai aussi repris les trois livres de Genette de l'époque, Introduction à l'architecte, 79, Palimpseste, 82, et Seuil, 87, puisque c'est là qu'il introduit peu à peu ces notions. Bon, j'ai repris les livres dans ma bibliothèque. J'ai d'abord pris Seuil, puisque c'est Seuil qui formalise vraiment le paratexte. Et j'étais amusé parce que la première chose que j'ai lue dans le livre, c'est l'envoi de Gérard Genette. Un envoi, ça fait partie du péritexte ou de l'épitexte? Je suis bien incapable de le dire. Mais voici quel était l'envoi de Gérard Genette. Pour Antoine Compagnon, bien amicalement Gérard Genette. Après, j'ai pris le livre « Introduction à l'architecte » 1979 dans ma bibliothèque et j'ai regardé l'envoi pour Antoine Compagnon, bien amicalement Gérard Genette. Et puis j'ai pris Seuil, puis j'ai lu l'envoi et c'était pour Antoine Compagnon, bien amicalement Gérard Genette. Alors je me suis dit que je n'ai pas pris les autres pour aller vérifier si dans le troisième ou le quatrième Genette il y avait le même envoi, mais je me suis dit voilà bien la preuve de l'esprit classificateur de Gérard Genette. J'étais dans la classe des gens à qui on écrit bien amicalement pour X, bien amicalement Y. Alors moi, quand je reçois un message aujourd'hui, avant des lettres, maintenant des mails, où il y a bien amicalement, je me demande toujours si bien, c'est un augmentatif ou un diminutif. Hein. On ne sait jamais. Hein. Surtout quand on a un peu lu Proust, on se demande toujours si bien amicalement, c'est mieux ou moins bien qu'amicalement. Hein. C'est comme quand on dit mes sentiments distingués. Je déteste recevoir des messages avec mes sentiments distingués. C'est des sentiments qui me distinguent de vous. Quoi. Voilà. Bon, alors, la première page de Seuil, donc je lis, « Le texte se présente rarement à l'état nu, sans le renfort et l'accompagnement d'un certain nombre de productions, elles-mêmes verbales ou non, comme un nom d'auteur, un titre, une préface, des illustrations. » Et un peu plus bas, « Cet accompagnement constitue ce que j'ai baptisé ailleurs, conformément au sens parfois ambigu de ce préfixe en français, voyez, disais-je, des adjectifs comme parafiscal ou paramilitaire, le paratexte de l'œuvre. » Et puis il y a une note, c'est la troisième de l'ouvrage, à la page suivante, et il emploie le mot « zone » pour désigner ce paratexte, et là il y a une note qui dit cite, puisque j'avais appelé la périgraphie cette zone, hein, c'est le zona, la ceinture du texte. Donc, il me cite à la troisième page à propos du mot zone, mais sans du tout évoquer la notion même de périgraphie qui était à peu près identique. Et puis deux pages plus loin, là où il introduit le péritexte, justement, il y a une note, donc c'est la troisième note du livre, où il dit « J'appellerai péritexte cette première catégorie » et en note, « Cette notion recoupe celle de périgraphie proposée par accompagnant. » Donc voilà, tout de même, la périgraphie n'était pas totalement absente. Et ailleurs, lorsqu'il évoque l'épigraphe, ben, là il dit, comme dit justement Antoine Compagnon, « citation par excellence », puisque c'était bien l'épigraphe qui m'avait mené vers cette périgraphie. Toutefois, lorsqu'il introduit donc cette notion de paratexte et d'épitexte dans Seuil, il évoque des textes antérieurs, donc je suis remonté un peu en arrière à Palimpseste et à l'introduction à l'architecte, où j'ai découvert ou redécouvert qu'il appelait en vérité à l'époque paratextualité quelque chose de complètement différent. Puisque dans Introduction à l'architecte, ce qu'il appelle paratextualité, c'est ce qu'il appellera plus tard hypertextualité. La paratextualité dans Introduction à l'architecte, ce sont les diverses formes de l'imitation et de la transformation. Tout ce qui est pastiche, parodie, ce qu'il étudiera dans Palimpseste. C'est ça qu'il appelle paratextualité à l'époque. Donc en 79 dans cette époque, et paratextualité, là on voit quel est le modèle, c'est ce qu'on appelait à l'époque paralittérature. On parlait beaucoup de paralittérature, littérature mineure, on n'ose plus dire ça aujourd'hui, mais on pensait à l'époque littérature mineure, et donc c'était sur ce modèle là et vous voyez que la paratextualité de 1979 n'a rien à voir avec le paratexte de 1982 ou 87, et dans Palimpseste en 82, il dit en effet, on a le Genette ironique. Genette était un personnage heureusement très ironique. Il n'était jamais dupe de ses manies classificatoires. Il les présentait toujours avec une pointe d'ironie. Et il dit au début de Palimpseste, donc Palimpseste, vous voyez, C'est toute cette littérature seconde que 3 ans avant il appelait paratextualité, que maintenant il va appeler hypertextualité, et il dit « L'objet de ce travail est ce que j'appelais ailleurs, donc 3 ans avant, entre guillemets, faute de mieux, la paratextualité. J'ai depuis trouvé mieux ou pire. » C'est vraiment Genette, hein, cette ironie. « Trouvé mieux ou pire. » On en jugera. Et donc c'est hypertextualité, et à ce moment-là, paratextualité deviendra peu à peu ce que l'on sait. Et alors là, donc, il dit, et il mobilise, et j'ai mobilisé paratextualité pour désigner tout autre chose. Et là, il introduit donc l'intertextualité et la citation, et il y a une note, je suis toujours la première note de tous ces livres, sur l'histoire de cette pratique, voire l'étude inaugurale d'accompagnant la seconde main. Alors là aussi, ça m'a amusé parce que sur l'histoire de cette pratique. Donc maintenant, je vois mieux que pour moi, moi qui croyais à l'époque que je faisais de la théorie, de la littérature, Genette avait déjà repéré que j'étais plutôt historien. L'histoire de la citation, il voyait que c'était plutôt de l'histoire. J'étais déjà historien, bon, je ne m'en étais pas rendu compte, mais Genette était sensible au fait, sans doute, que j'avais proposé une phénoménologie, une théorie de la citation linguistique, mais tout ça, c'était pour analyser les fonctions de la citation, de même que c'était les fonctions de la périgraphie. C'était les fonctions qui m'intéressaient, et notamment les fonctions instituées de cet appareil qui était autour du texte. Voilà, donc ça permet de comprendre un peu mieux quelles pouvaient être ces réticences que je ne soupçonnais pas. Auprès de l'intertextualité, le second type donc, de relation qu'il appelle transtextuelle est constitué par, je cite, le texte proprement dit, les relations que le texte proprement dit entretient avec ce que l'on ne peut guère nommer que son paratexte. Là, vous retrouvez tout Genette. Hein, avec ses, on avance quelque chose et on recule. Ce que l'on ne peut guère nommer que paratexte. Hein. Parce que certaine prudence dans l'assertion un peu de ces néologismes. Titre, sous-titre, intertitre, préface, postface, avant-propos, note marginale, infrapaginale, terminale, épigraphe, illustration, prière d'insérer, bande, jaquette. Bon, c'était exactement la liste que j'avais donnée de la périgraphie. Et ici, là, il n'y a pas de note, mais bon, cette expression « ce que l'on ne peut guère nommer que paratexte », que son paratexte, est amusante. Mais, à lire le titre de votre programme, dès son surtitre, hein, « in margine », est-ce un élément du paratexte ou de la périgraphie ? Je plaide pour la périgraphie, parce qu'il me semble que tout ce que vous allez étudier relève de ce que Genette appelle le péritexte et non l'épitexte. Hein ? Donc, c'est l'expression de périgraphie, en fait, que vous auriez dû utiliser, parce qu'elle est beaucoup plus adaptée à ce que vous allez faire. Puis en plus, on a graphéine pour les manuscrits, c'est peut-être mieux. Je m'aperçois que vous parlez surtout du péritexte, de la périgraphie, dont Genette reconnaît que j'en avais parlé. Vous parlez donc de la première partie. J'ai bien l'impression que toutes vos communications portent sur elle et non sur l'épitexte, à moins qu'on puisse avoir un commentaire qui s'inscrit dans la marge. Dans la seconde main, dans ce livre, j'avais une étude assez développée sur la notion de paragraphe. Parce que le paragraphe est évidemment une question, bon, il y a paragraphe, et évidemment une notion capitale dans l'institution du texte imprimé à cette période-là. Le paragraphe, bon, à l'origine, justement, c'est un signe marginal qui repère la coupure du texte, qui est dans un flux continu. Bon, c'est le pied de mouche du manuscrit. Et puis, ça devient le bloc de texte qu'on identifie à l'alinéa. Paragraphe, c'est l'alinéa. Aujourd'hui, les graphistes à ma grande fureur, pense que c'est chic de supprimer les alinéas. Hein, donc, mais ça rend évidemment les textes moins lisibles. Ils parangonnent, comme on dit, justement. Et donc, on supprime les alinéas. Et l'alinéa, ben, c'est une très belle invention, justement, de cette renaissance, de ce début, de cette formalisation du texte avec l'imprimerie. Dans les essais de Montaigne, il n'y a pas d'alinéa. Et il n'y a pas non plus de marque marginale de paragraphe. Donc on crée des paragraphes lorsqu'on édite Montaigne aujourd'hui. Alors, pour poursuivre, oui, encore une minute, mes relations avec Genette, le temps passant, elles ne se sont jamais vraiment arrangées. Mes relations avec Genette, je sais qu'un jour, mais je ne sais plus où, dans quel article, dans quel livre, je l'ai comparé à Raymond Lull. Par cet amour des classifications, des cercles, justement cette curiosité pour ce qui n'existe pas au même titre que ce qui existe. Et il y avait chez lui cette grande ironie, enfin je l'ai mieux connu par la suite, mais on ne s'est jamais vraiment entendu. Et mon dernier rendez-vous avec lui, j'ai fait une gaffe terrible. Le dernier rendez-vous que j'ai eu avec Genette, donc il était assez âgé, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était à propos d'un de ses derniers livres, donc de la série de ses fragments autobiographiques. J'avais accepté d'accompagner mon ami Philippe Roger, que Dario connaît, qui était directeur de critique, pour un entretien sur l'un de ses livres avec Genette. Et, bon, cette série des livres qui s'appelle « Codicie, Apostille, épilogue, post-script », tous éléments de du péritexte ou peut-être de l'épitexte, je ne sais pas. Et j'avais accepté, et là j'ai fait une gaffe. Je lui ai demandé si, à l'époque où il s'est lancé dans la narratologie, lui avait servi, donc le Genette de figure 3, en gros, un peu avant, où lui avait servi les travaux de quelqu'un que je considérais comme un maître des maîtres, lui avait servi, et un précurseur de l'interrogie, les travaux de Georges Blin dans Stendhal et les problèmes du roman, hein, les deux volumes de Georges Blin des années 50 qui sont vraiment, sans le dire, des analyses narratologiques déjà. Et j'avais complètement oublié, mais Genette me l'a rappelé ce jour-là, qu'il n'aimait pas du tout Georges Blin, que Georges Blin s'était opposé à son entrée au Collège de France. Et Genette m'a raconté ce jour-là, je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est quand même très amusante, Georges Blin était un très très grand professeur. Les livres de Blin sur Stendhal, sur Baudelaire, c'est fantastique. Mais Georges Blin était assez fou. Il était sadique. Il a écrit un livre sur Baudelaire et Sade. Hein, et il était pervers et sadique. Et Genette m'a raconté qu'il avait un jour... il était candidat au Collège de France. Il avait téléphoné à Georges Blin d'une cabine dans la rue pour prendre rendez-vous avec lui pour sa visite académique. Et Georges Blin a tenu la visite académique au téléphone, tandis que le pauvre Gérard Genette était debout dans une cabine téléphonique dans le plus grand froid, et il a dû rester comme ça pendant une heure et demie au téléphone avec Georges Blin. La prise de rendez-vous est devenue le rendez-vous lui-même. Georges Blin a fait pire, puisque un autre candidat au Collège de France m'a raconté que son entretien de visite au Collège de France s'était passé en poussant sur le bouton de l'interphone en bas de l'immeuble de Georges Blin, rue Royer-Collard. Même chose, pendant une heure et demie, il était resté debout avec le doigt sur l'interphone pour sa visite académique. Bon, c'est une parenthèse, mais vous voyez que jusqu'à mon dernier rendez-vous avec Gérard Genette, j'ai fait une gaffe abominable. Bon, mais du coup, j'ai une anecdote à vous raconter. Dario a intitulé ce propos « Question de cadrage ». Bon, je mettrai plutôt le singulier à question. Je crois que je retiens de tout ça l'idée que Genette ne pouvait pas m'encadrer, comme on dit. Et que je n'ai jamais su exactement pourquoi, si c'était parce que j'étais lié à Barthes, si c'était parce que j'avais quitté son séminaire, si c'était parce que j'avais fait une incursion dans un territoire qu'il pensait un jour occuper plus tard. Et puis alors finalement, aujourd'hui, je me suis dit, grâce à vous, que la perspective que j'empruntais sur les mêmes objets, au fond, elle n'était pas du tout la même, elle était beaucoup plus historique que formaliste, mais je ne me rendais pas compte absolument. En tout cas, ce dont je suis content, c'est que de constater que vous allez parler plutôt de la périgraphie que du paratexte, hein, d'après les titres de toutes vos communications.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.